Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme marocaine qui brille à l'international au sein des multinationales. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatem Zahra Jamal, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie la Fatem Zahra.
Je vais très très bien, merci beaucoup et merci surtout pour cette belle invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui.
Eh ben, le plaisir est vraiment partagé, il est plutôt pour moi. Alors justement, Fatem Zahra, vous êtes une Marocaine qui brille à l'international. Vous faites une longue carrière dans les multinationales, à l'extérieur du Maroc, en dehors du Maroc. Et ce que j'ai envie de découvrir avec vous, c'est qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui contribue à ce que vous, en tant que jeune femme marocaine, brillez à l'international. On va peut-être commencer par le parcours académique.
Ok, pas
ouais. Alors, qu'est-ce qu'on étudie pour devenir justement une référence des multinationales à l'international?
Parfait. Donc, effectivement, Yasmine, pour vous donner un peu plus de contexte, donc moi, j'ai grandi à Casablanca avant de quitter le Maroc pour poursuivre mes études à l'étranger. Donc, je dirais que j'ai un parcours qui est assez atypique dans le sens où j'ai étudié à la Sorbonne Université d'Abu Dhabi, donc où j'ai obtenu une licence en économie et gestion. Et ensuite, j'ai fait un master en business international avec l'Université australienne de Wollongong. Depuis, je vis à Dubaï. Mais ce qui est important, c'est aussi le fait que cette exposition internationale m'a permis d'acquérir, je dirais, des compétences qui sont assez solides, qui forgent en fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc la personne en tant que personne, Fatem Zahra Jamal, mais aussi le profil professionnel qui a pu intégrer des organisations et des multinationales.
Alors pourquoi avoir choisi Abu Dhabi pour les études?
C'est une très très bonne question. Donc en fait, c'est un peu, d'une part, c'est le destin qui a pu jouer un peu son rôle. Et d'autre part, c'était une décision qui était bien réfléchie avec les parents, que je remercie d'ailleurs, qui était particulièrement passionnée par les Émirats et du fait que la Sorbonne avait lancé son premier campus universitaire à Abu Dhabi. Donc, c'était une décision qui était on va dire, assez bizarre ou atypique.
Oui, atypique, absolument.
Du fait qu'au Maroc, on est plutôt habitué à aller en Europe ou peut-être même aux États-Unis, mais pas peut-être au pays du Golfe.
C'est ça. Alors, au-delà de l'expérience académique, le fait d'être dans cette autre culture, est-ce que ça a contribué aussi au fait que vous restiez dans la région ensuite professionnellement?
Absolument, absolument. Donc, il faut dire qu'aux Émirats, il y a une diversité culturelle qui est très, très importante, mais aussi le fait aussi d'intégrer et d'être et de faire partie en fait de ces entreprises qui ont une ouverture internationale permettent d'avoir des compétences qui sont essentielles, mais aussi de s'adapter beaucoup plus rapidement à différentes cultures, à différentes façons de voir les choses et différentes personnes. Donc c'est vraiment une richesse immense et un ancrage dans cette région, donc pour créer beaucoup plus d'impact d'une façon qui est beaucoup plus personnalisée.
Alors Fatem Zahra, justement, pourquoi avoir choisi d'intégrer le modèle des multinationales? Et d'abord, est-ce que c'était un choix en fait, réfléchi?
Effectivement Yasmine, donc c'était un choix du fait que je cherchais cette ouverture à l'international, cette diversité culturelle, mais aussi cette exposition, on va dire, aux différentes pratiques mondiales en fait. Donc c'était une décision qui est bien réfléchie, mais aussi il y a aussi un petit côté de lac, d'accord. Donc il faut dire que parfois les opportunités ne se présentent pas de la même manière pour chacun. Et moi, dans ce cas-là, je me considère chanceuse d'avoir pu intégrer de belles boîtes qui m'ont permis, bien sûr, d'évoluer tout au long de ma carrière.
Alors, ce qui fait peur en général en multinationales, c'est qu'on n'est qu'un chiffre.
True. Alors, comme il y a des avantages qui sont assez exceptionnels, il y a aussi des challenges. Donc, le challenge dans ce cas-là, c'est vraiment le fait d'avoir un rythme de travail qui est assez fast-paced, d'avoir des standards qui sont très, très élevés et aussi des exigences qui sont aussi importantes. Et donc, généralement, du fait qu'il y a aussi que ce sont des grandes structures, il y a un challenge en fait et une perception d'être comme un chiffre en vrai.
Ouais.
Mais il faut dire que chaque employé a sa propre value add, on va dire, ou sa propre
Valeur
valeur
ajoutée,
ajoutée.
ouais.
Voilà, exactement. Et c'est à chaque employé aussi de mettre en place, bien sûr, et de prouver, on va dire, de prouver sa vraie valeur au sein de ces grandes structures.
Alors ça doit être compliqué quand même, parce que on est noyé dans des milliers d'autres collaborateurs. Comment, Fatem Zahra, toi, tu as pu gravir les échelons et devenir, si on peut la nommer brièvement, on va dire une compétence incontournable de LinkedIn?
Merci beaucoup pour la question, Yasmine. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup de compétences qui sont requises, mais aussi beaucoup de professionnalisme qui est requis pour évoluer au sein de ces multinationales, notamment une rigueur de travail, une discipline, je dirais, bien soutenue, mais aussi une capacité à travailler, à naviguer dans des environnements qui sont très, très complexes. Donc, je dirais que ces éléments sont essentiels vraiment pour persévérer et évoluer et même réussir cet environnement-là.
Alors, justement, les challenges, vous qui avez toujours évolué dans ce genre d'environnement, de multinationales, entre guillemets, est-ce que, entre parenthèses, est-ce que vous vous imaginez travailler autrement aujourd'hui, ailleurs, qu'en multinationale?
Oui, pourquoi pas, si l'opportunité se présente, je ne dirais pas non. Donc, tout dépend. En fait, ce n'est pas une question de compagnie per se, mais plutôt de valeur, de mission, d'entreprise aussi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui est important pour moi aujourd'hui.
Alors, il y a un autre élément qui vous intéresse énormément, c'est le coaching.
Effectivement,
Ok.
effectivement. Donc
Alors,
comme
justement, dans le cadre de vos activités professionnelles, qui sont très challenging, comme on l'a dit, qui sont time consuming, vraiment beaucoup de temps à travailler. Comment vous avez trouvé le temps aussi pour vous lancer dans une formation ou des formations en coaching?
C'est une excellente question, Yasmine, et je vous en remercie. Donc, je pense que beaucoup de gens vont peut-être s'identifier à cela. Nous sommes généralement absorbés et overwhelmed par le quotidien, par les responsabilités, par les objectifs, les chiffres, etc., que souvent on oublie on oublie vraiment de s'écouter vraiment. Et donc, pour moi, après beaucoup de temps et beaucoup de réflexion, je dirais, je me suis retrouvée à chercher mon vrai calling, mon vrai burning desire. Et j'avais cette voix intérieure qui me disait comme quoi, voilà, j'ai envie de faire plus et j'ai envie aussi de créer beaucoup plus d'impact, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les individus. Donc, pour moi, le coaching, comme vous avez dit, vient comme une extension de ce que je fais, en fait. Donc, c'est juste une question de structurer un peu plus le projet et d'avoir un projet qui est un peu plus défini, tout en alignant et tout en travaillant sur, bien sûr, une work-life balance, mais aussi une planification pour pouvoir jongler entre les différentes activités.
Alors, votre métier, votre cœur de métier, c'est le commercial? C'est
Effectivement.
ça. Vous dites, c'est une extension de ce que je fais. Comment le coaching accompagne le commercial?
Excellent. Donc, déjà, si on parle du métier de commercial, donc pour moi, la vente, on va dire, ne se limite pas au monde commercial, mais plutôt, je la vois comme une compétence de vie. C'est-à-dire que ça permet en fait de défendre une idée, une vision, un projet ou même soi-même. Et donc, le coaching est ancré aussi dans cette approche. Donc, c'est vraiment de l'écoute active, c'est vraiment aussi de mieux comprendre les différents individus profondément et bien sûr, créer cette valeur, on va dire.
Ça vous permet de mieux cadrer vos émotions, mieux cadrer les émotions des équipes. C'est très important pour un leader.
Quand on parle de leadership, il faut aussi avoir un leadership qui est ancré dans tout ce qui est empathie et compassion. D'accord ? Et le coaching permet aussi de développer ces qualités. D'ailleurs, pour moi, il y a une confusion parfois quand il s'agit du leadership. Donc, on le voit souvent comme un côté qui est lié ou un aspect qui est lié au titre ou plutôt à un niveau hiérarchique,
oui.
alors que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, le leadership aujourd'hui, c'est une qualité, c'est une compétence aussi qui peut être développée dans tous les niveaux hiérarchiques. Donc ça, c'est vraiment important parce que il y a beaucoup de personnes qui ont en fait cette misconception. D'ailleurs, même dans la progression de carrière, dans l'évolution aussi. Donc, il y a différents types, on va dire, de progression et de développement de carrière. Généralement, quand on parle aussi, vous avez posé la question par rapport au leadership. Donc, quand on parle aussi d'une personne leader, donc une personne peut être leader et ne pas avoir une position formelle de pouvoir,
ouais.
Exactement, tout comme on peut avoir une position de pouvoir ou un title et ne pas être leader.
Et vous avez choisi en fait de fill the gap, vraiment de ne pas laisser les choses au hasard.
Ben, on essaie, à plus.
Alors, par contre, vous n'avez pas répondu à la question. Comment vous avez fait en termes de temps, de gestion de temps? Vous avez parlé d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous avez une vie professionnelle trépidante, très présente, on va dire, dans votre quotidien. Comment, avec tout ça, vous avez dit non, je bosse, j'ai ma vie personnelle, mais je veux aussi me développer et je veux aussi me former au coaching?
Excellent. Donc, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, donc la préparation, la planification sont des éléments qui sont très, très importants, d'accord ? Donc, pour justement pouvoir avoir ces deux activités en même temps. Mais ce qui est très essentiel, c'est vraiment de gérer son 6 to 9 ou son 6 to 12 a.m. carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est employé, on a notre day-to-day activities, donc avec notre 9 to 6 en quelque sorte.
Ça, c'est le job.
Bien sûr, effectivement, ça, c'est le job. Mais il faut aussi pouvoir optimiser donc son after, donc son,
ouais.
On va dire son horaire personnel, donc ou plutôt son
temps pour soi.
Son temps pour soi,
ouais,
voilà.
Ouais. Mais donc,
son temps pour soi pour réaliser, en fait, pour réaliser et travailler sur ses ambitions.
Donc, en fait, vous, c'est pas rentrer à 18h et s'allonger devant Netflix?
Non, c'est pas moi.
C'est pas...
c'est pas moi.
Donc,
il faut dire que je le fais de temps à autre parce qu'il faut aussi couper. Mais après, quand on a une vision spécifique, on a un goal spécifique, donc on crée le temps pour.
Ouais, on y travaille
et,
en fait.
Et là, on y travaille. Voilà. Et du fait que je suis vraiment occupée de 9h, on va dire, à 18h plus ou moins, ne me permet pas, bien sûr, de continuer ou de travailler sur autre chose. Donc, il faut absolument trouver ce temps after work pour justement travailler sur ses objectifs et travailler sur ses projets personnels.
Vous vous reposez quand ?
Le week-end.
Ouais. Donc,
le week-end.
Donc, c'est, en fait, c'est vraiment une discipline.
Exactement. Donc, pour moi, tout est dans le calendrier.
If it's not in
the calendar, it doesn't exist.
Carrément. Donc, l'imprévu n'existe pas. C'est-à-dire, Fatem Zahra a prévu de finir son boulot à 18h, de commencer, en fait, son travail personnel après 18h. S'il y a des imprévus, des amis qui appellent quelque chose, non. C'est pas dans le calendrier.
En quelque sorte. Quelque sorte, il faut que ça soit planifié. Il faut que ça soit planifié. Mais après, bien sûr, on n'est pas des robots. Il y a aussi des éléments de surprise et des éléments aussi de flexibilité.
Flexibilité. Alors, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, Fatem Zahra. Vous, vous êtes donc dans le métier du commercial au sein d'une très grande multinationale. C'est un réseau social professionnel. YEC. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle existe, s'est imposée à tous les secteurs et notamment à celui justement des réseaux sociaux et du métier du commercial. Comment vous vous êtes adapté à l'arrivée de l'intelligence artificielle?
Ok, très bien. Donc déjà, si on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux avantages de la multinationale, travailler au sein du multinationale dans le domaine de la tech permet en fait d'avoir déjà cette exposition directe et unique à ces innovations, à ces nouveaux outils technologiques, y compris bien sûr l'IA. D'accord. Donc il y a une adoption et adaptation en fait qui est certainement là. Aussi, si on regarde un peu le métier commercial à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut adresser, notamment la question de l'IA et notamment de la question de la disparition, on va dire, des métiers à cause entre guillemets de l'IA. D'accord. Donc pour moi, l'IA ne remplace pas l'humain. D'accord. Donc, au contraire, elle augmente. Donc, il faut commencer aussi à parler de l'IA avec un peu plus de sérénité. D'accord. Donc, dans le sens où l'IA permet de créer de l'impact, de gagner en productivité et bien sûr, de se libérer un peu des activités qui sont un peu plus administratives. Donc, dans ce domaine-là, dans mon day-to-day, on va dire. Donc, j'utilise aussi, bien sûr, des différents outils, notamment, bien sûr, le ChatGPT, le Claude, le Gemini, le Perplexity. Et je trouve que ce sont des outils qui sont désormais accessibles à tous, qui sont à portée de main. Mais, bien sûr, la valeur créée est une valeur qui dépend de l'utilisation de chacun. Et donc, moi, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, d'ailleurs, l'idée, mais aussi le petit conseil peut-être, c'est de commencer à travailler et de maîtriser ces différents outils technologiques pour se préparer à l'avenir.
Est-ce que pour vous, il n'est pas déjà un peu trop tard pour ceux qui n'ont pas encore commencé? Et en même temps, est-ce que vous, au sein de la multinationale, de par le domaine d'activité, est-ce que vous avez été proactif? C'est-à-dire, vous étiez au courant de ce qui allait arriver, les équipes ont été préparées, les outils ont été maîtrisés. Est-ce qu'il y a eu de la proactivité dans ce sens?
Parfait. Donc, au fait, it's never too late, Yasmine. Donc, il y a des degrés, en fait, de awareness, il y a des degrés aussi de maturité quand il s'agit de l'IA en général. Pour dire comme quoi tout le monde est prêt dans la région même, ce n'est pas vrai. Donc, legitimate, let's say, d'accord. Mais il y a de plus en plus un intérêt qui est là et une adoption forte aussi des différents outils. Tout dépend bien sûr du besoin, tout dépend aussi des use cases. Donc non. Aujourd'hui, les gens ont la possibilité de maîtriser des outils et bien sûr d'avancer, parce que de toutes les façons, ces outils aussi évoluent très très vite. D'accord. Donc il faut se former, il faut se coacher par rapport à ces dernières tendances et ces outils. Pour la deuxième partie de la question, donc c'était est-ce qu'on avait accès à ces outils
en amont, oui.
Voilà. Exactement. Donc, je dirais oui. Et c'est un des avantages aussi du domaine de la tech. Donc, généralement, on a les accès avant même le grand public, if I may say. D'accord. Donc oui, c'est une approche qui est un peu plus proactive comparée à d'autres industries ou peut-être d'autres entreprises qui sont dans d'autres domaines.
Donc en fait, pour résumer, l'une des clés pour réussir, c'est ça, c'est ce mix entre ce que l'entreprise propose notamment ce cutting edge accompagnement en matière de technologie, mais aussi le rôle que chaque individu peut jouer et que toi et que vous avez joué dans votre développement aussi, dans votre travail sur vous, dans le fait d'aller vers compléter finalement tout ce qui est vraiment hard skills, commercial, tech, etc., par les soft skills du développement personnel.
Donc, comme vous avez dit, Yasmine, donc les compétences techniques évoluent très rapidement. Mais ce qui fera aussi la différence, ce sont ces compétences qui sont humaines. Donc, notamment, comme vous avez dit, la communication, la résilience, l'agilité, l'adaptabilité, etc. Donc, et pour vraiment réussir, d'ailleurs, il y a des compétences qui sont entre les deux, je dirais, donc à mon avis. Donc, comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler du vibe coding, par exemple, ou du prompt engineering, donc qui sont aussi aussi importantes aujourd'hui et qui évoluent d'une façon très, très rapide et qui permettent à des profils qui sont non techniques de créer de la valeur, de créer de l'impact à travers, bien sûr, à travers soit des requêtes, par exemple, qu'on appelle prompts, pour générer de l'information, ou pour le cas du vibe coding, c'est plutôt à travers une approche qui est un peu plus intuitive ou un dialogue naturel avec les outils de l'intelligence artificielle générative. Donc, en fait, c'est une combinaison des deux, donc des soft skills et des technical skills qui permettront éventuellement de réussir dans n'importe quel domaine.
Alors Lala Fatemzada Jamel, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
Pareillement, merci beaucoup Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.